Une semaine d'actualité. Éric Bataillon.
Bonjour, bienvenue dans une semaine d'actualité. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous hebdomadaire. Comme chaque samedi, nous allons revenir avec la rédaction sur 7 jours d'information. N'oubliez pas que vous pouvez podcaster cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr. J'ajoute ce message de Pierre-Edouard Deldic pour les émissions de fin décembre et début janvier. Dites-nous ce qui vous a marqué en 2014, un événement, une personnalité. Écrivez-nous par courriel ou à la page Facebook d'une semaine d'actualité. Merci d'avance pour vos propositions. Cette semaine, notre invité est journaliste, reporter à la rédaction de la chaîne française de télévision M6. Bonjour, Azdine Harmetchaouch.
Bonjour.
Votre actualité est la parution de cet ouvrage, La France du djihad, aux éditions du Moment. Un livre-enquête consacré à ces jeunes Français qui partent en Syrie ou en Irak combattre aux côtés des Moudjahidines au sein des mouvements arabes radicaux que sont Al-Nusra ou l'organisation État islamique. En quelques mots, c'est une enquête qui met au jour les filières djihadistes qui mènent directement de France aux zones de combat.
Tout à fait, même si le terme filière en fait ne correspond pas trop, car il s'agit souvent d'un départ un peu seul. Alors aidé ou encouragé par un recruteur basé en Syrie qui va réussir à trouver les mots pour convaincre, mais c'est justement cet élément qui inquiète les services de renseignement, car on est face à un mouvement comme ça qui nous dépasse un peu, avec un profil de jeunes tout à fait atypique et varié. On a autant un ancien braqueur de Nice qui a écumé les prisons, qui s'est converti en prison, mais également des jeunes de 15 ans qui ne connaissent rien à l'islam et qui ne connaissent même pas les piliers de l'islam, et des jeunes femmes, ça aussi c'est un phénomène tout à fait nouveau, qui rêve de se marier avec un chef djihadiste, qui rêve d'une vie dans un grand état islamique, le Cham. Et cette enquête révèle voilà cette difficulté de la France à contenir en rien un phénomène que les autorités ont minimisé. Quand nous avons commencé à faire cette enquête, il y a un an, soyons francs, les services de renseignement ne s'y intéressaient que très peu, ou, de manière très cynique, estimer que ces barbus, entre guillemets, étaient plus dangereux là-bas qu'en France.
Des services qui, malgré tout, vous ont aidé à faire votre enquête et votre livre.
Tout à fait. Face à l'ampleur du phénomène, nous avons rencontré des enquêteurs de la DGSI qui nous ont aidés, c'est toujours un mot un peu étrange entre un journaliste et un policier, nous ont guidés, nous ont orientés, nous avons fait un travail voilà de recoupement aussi d'informations, on peut pas se contenter d'informations policières. Effectivement, et là, c'est là que nous avons par exemple découvert que la France a peut-être échappé à 3 attentats, dont un d'envergure, et effectivement, nous avions besoin d'informations policières pour révéler ces infos.
Nous aurons l'occasion d'y revenir tout au long de cette émission. Dans quelques instants, nous parlerons de l'Arabie Saoudite et du Conseil de coopération du Golfe, mais d'abord, les premiers mots de Serge Lazarevic, dernier otage français dans le monde, selon la présidence de la République, libéré mardi par ses ravisseurs islamistes dans le Nord Mali et arrivé mercredi matin à Paris.
Je vais être succinct, j'ai pas beaucoup de force. Je voulais remercier la France, le peuple français. Être otage, c'est un peu compliqué. Je ne savais pas avant ce que c'était la liberté. J'avais oublié ce que c'était la liberté. Et n'oubliez jamais qu'être un homme libre, c'est faire attention à soi. Faites attention, parce que la liberté, c'est plus cher que tout. Quand on est pris, quand on est malmené, quand on est perdu, quand on est au bord de la mort, on pense plus à la vie. Vive la liberté.
Merci, merci beaucoup.
Une semaine d'actualité.
La mort du ministre palestinien chargé des questions liées à la colonisation, Ziad Abu Ayn, participait à une marche pacifique contre une implantation sauvage israélienne. Il a été pris à partie et frappé par des soldats israéliens, comme le raconte l'un des témoins et participants à la marche, Mohamed Mohsen.
Nous étions dans une action pacifique. Nous allions planter des oliviers dans le village de Tourmoussaïa. L'armée israélienne a agressé les gens qui étaient là, les manifestants, y compris des Européens. Elle a aussi ciblé le ministre honoraire Ziad Abu Ayn. Un soldat a attaqué le ministre en le frappant avec son arme. Ensuite, il a été frappé au cou et sous la ceinture. Il est tombé à terre et les soldats l'ont frappé à coups de bottes. Ils ont lancé des dizaines de grenades lacrymogènes contre les manifestants et contre le ministre. Nous avons vu qu'il était par terre, très fatigué. Il n'arrivait plus à respirer. On a essayé de faire de l'assistance respiratoire jusqu'à l'hôpital. Ensuite, nous sommes arrivés à l'hôpital de Ramallah, où on a constaté qu'il était mort.
Malade du cœur, le ministre serait décédé pour ne pas avoir été soigné à temps. Cette violence de soldats israéliens fait écho à la publication, la veille, d'un rapport d'Amnesty International qui accuse Israël de crimes de guerre lors des dernières opérations militaires contre Gaza. Un rapport que, sans surprise, le gouvernement réfute. Écoutez le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Emmanuel Narchon.
Ce rapport de Amnesty International, nous le rejetons totalement, parce qu'en fait, nous avons l'impression que Amnesty est un peu victime d'une machination palestinienne. C'est un rapport qui n'a aucun contexte, qui n'explique absolument pas quelles sont les raisons pour lesquelles Israël a dû attaquer certains bâtiments à Gaza. C'est un rapport qui est basé sur des témoignages palestiniens de personnes qui ne s'identifient même pas et dont la crédibilité est à remettre en question. Donc ce rapport, de notre point de vue, ne signifie pas grand-chose.
L'Arabie Saoudite montre qu'elle est résolument engagée dans la lutte contre le terrorisme. Sa police a annoncé dimanche avoir arrêté 135 personnes suspectées d'appartenir à des groupes armés, essentiellement des Saoudiens, mais aussi 26 Syriens et 3 Yéménites. Ces arrestations seraient liées à l'attaque meurtrière menée le 3 novembre dernier contre des chiites lors des cérémonies du deuil de l'Ashura. Clarence Rodriguez, à Riyad.
Parmi ces 135 personnes arrêtées suspectées de terrorisme, une majorité de djihadistes saoudiens partis combattre en Irak et en Syrie, revenus ces derniers mois dans le royaume pour déstabiliser le pays. D'autres terroristes, parmi lesquels 26 étrangers, étaient chargés de recruter, de financer, de fabriquer des engins explosifs. Les forces saoudiennes de sécurité étaient particulièrement en alerte ces dernières semaines depuis l'attaque perpétrée le mois dernier lors de la célébration de l'Ashura à Al-Dawa dans la province est du pays, là où se concentre la minorité chiite. On apprendra plus tard que les auteurs de cette expédition meurtrière étaient passés par les centres de réhabilitation à Riyad. Ce grand coup de filet opéré dans tout le royaume intervient au moment où les autorités saoudiennes sont sur le qui-vive, luttent contre les combattants de Daesh, leurs principaux ennemis. La plus grande prudence est demandée aux 9 millions d'expatriés qui constituent un tiers de la population en Arabie saoudite.
La police saoudienne a également arrêté jeudi 3 militants islamistes qui avaient agressé un ressortissant danois au mois de novembre. La réconciliation entre les membres du Conseil de coopération du Golfe. Mardi, à l'issue de la réunion annuelle qui s'est tenue à Doha, le Qatar a annoncé qu'il soutenait désormais l'actuel président Abdel Fattah al-Sissi en Égypte. C'est donc la fin de la brouille entre l'Émirat et les royaumes voisins. Brouille née du soutien du Qatar aux frères musulmans, nous rappelle Nicolas Falaise.
À l'origine de cette brouille historique parmi les monarchies pétrolières, la situation en Égypte où l'année dernière un coup d'état militaire a chassé du pouvoir le président islamiste Mohamed Morsi. Un coup de force anti-islamiste largement soutenu par plusieurs pays du Golfe, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis en tête. En mars dernier, ces deux pays ainsi que Bahreïn rappellent leurs ambassadeurs au Qatar, autre pays du Golfe qui, lui, soutient traditionnellement la mouvance des frères musulmans dans la région. Pour surmonter ce coup de froid sans précédent depuis la création du Conseil de coopération du Golfe, il aura fallu des efforts de médiation, notamment de la part du Koweït, et aussi des gestes symboliques du Qatar qui a expulsé une poignée de frères musulmans de son territoire, sans renoncer pour autant à ses liens avec cette nébuleuse islamiste. Le sommet qui s'ouvre ce mardi à Doha est présenté comme celui de la réconciliation. Il faut dire que le CCG est confronté à des défis de taille, comme la lutte contre l'organisation de l'État islamique, la situation au Yémen ou encore la chute des cours du pétrole.
Attentat meurtrier au lycée français de Kaboul jeudi. L'explosion visait l'Institut français en pleine représentation théâtrale. La pièce jouée aurait été une désacralisation de l'islam, selon les talibans. On a relevé un mort et une vingtaine de blessés parmi les spectateurs. Le kamikaze avait une quinzaine d'années. Hasdin Ahmed Chaouch, arrestation de terroristes en Arabie, attentat meurtrier en Afghanistan, guéguerre politico-diplomatique entre les pays du Golfe. On a l'impression que cette région est en instabilité permanente. Pourtant, elle attire fortement de jeunes Européens et notamment de jeunes Français. Pourquoi ?
C'est l'idée un peu nouvelle qui convainc ces jeunes djihadistes. C'est l'instauration, ce qui n'existait pas avant lorsqu'on voulait recruter par exemple des djihadistes pour l'Afghanistan. Aujourd'hui, c'est l'instauration d'un grand État islamique dans la région, le Cham, qui serait là actuellement entre la Syrie et l'Irak. Et c'est cette idée d'une grande communauté musulmane face à tout un monde qui souhaite opprimer les musulmans. Et malgré cette instabilité, justement, en fait, on appelle les musulmans à combattre pour faire face à cette menace. Donc l'instabilité, au contraire, elle montre que l'argumentaire djihadiste fonctionne, parce que regardez, on nous en veut avec parfois l'alliance de gouvernements corrompus. Cette instabilité, comme vous le dites si bien, est au contraire en fait un argument marketing quasiment pour les mouvements.
Alors, parmi les motivations des jeunes candidats au djihad, est-ce que les incidents parfois meurtriers, en tout cas répétés, entre les soldats israéliens, on l'a entendu tout à l'heure, et la population palestinienne, alimentent ce désir de djihad ?
Dans la djihadosphère et dans les films de propagande, l'argument principal pour convaincre est le suivant: les musulmans sont les victimes du monde actuel, avec deux ennemis, les chrétiens et surtout l'ennemi sioniste, l'ennemi juif. Donc les recruteurs véhiculent cette idéologie, avec une spécificité en plus en France, certaines affaires, type l'affaire Dieudonné, avec aussi dans nos quartiers des discours qui font écho, qui fonctionnent. Donc oui, le conflit israélo-palestinien est aujourd'hui au cœur de l'enrôlement, au cœur de l'argumentaire des recruteurs.
Et la violence présente dans cette région ne fait pas peur aux jeunes? C'est peut-être même un moteur pour y aller?
Certains ont soif de combat, disons-le, lorsqu'on regarde les profils, les anciens braqueurs, anciens même criminels. D'autres, au contraire, ont le sentiment que ce sont leurs frères qui meurent sous les balles. Les vidéos de propagande sont très efficaces, elles ciblent de jeunes enfants, des adolescents tués. Donc, au contraire, on va jouer là-dessus, on va jouer sur les émotions. On va dire, regardez, venez, il faut, c'est le moment d'agir, c'est le moment de vous battre et c'est le moment de s'armer ensemble. Voilà. Donc au contraire, plus les images sont violentes, plus elles vont convaincre les candidats au djihad.
Sept jours dans le monde.
Un typhon a ravagé une partie des Philippines en début de semaine. Agupit, c'est son nom, a détruit plus de 30 000 maisons et tué au moins une trentaine de personnes avant de se transformer finalement en tempête tropicale. Et la capitale, Manille, a été épargnée mardi, seulement victime de vents forts et de pluies abondantes. Le rapport qui dérange aux États-Unis, celui qui met en évidence que tout le monde avait fini par soupçonner ces dernières années, que la CIA a largement pratiqué la torture sur ses prisonniers. Le rapport met en particulier en lumière le mensonge et la désinformation érigés en système par l'agence de renseignement. Anne-Marie Capomaccio à Washington.
Le public savait depuis des années que la CIA avait torturé des détenus dans des prisons secrètes hors du territoire américain. Les simulacres de noyades, d'exécutions, les détentions dans des cages, les privations de sommeil avaient été documentés. Le rapport décrit tout cela et révèle les manœuvres de la CIA pour garder le secret. La presse et les élus ont été la cible d'une désinformation constante sur les résultats des interrogatoires. Le département de la justice a posé des questions auxquelles l'agence a répondu par des mensonges. Même la Maison Blanche, à l'époque de George Bush, n'a jamais su ce qui se passait vraiment, a insisté Diane Feinstein. Pendant 5 ans, la commission du renseignement a enquêté et pendant 5 ans, la CIA a tenté de l'en empêcher. Aujourd'hui, certaines associations demandent des poursuites judiciaires, même si la plupart des experts estiment que cela est impossible.
Comment distinguer un touriste d'apprenti djihadiste? C'est le casse-tête auquel serait confrontée la Turquie. Son ambassadeur en France estime que si le pays de départ ne s'organise pas, la Turquie ne peut rien faire. Aki Akil estime toutefois que la France fait son possible.
S'il n'y a pas un flux d'informations venant des pays d'origine à la Turquie, nous ne pouvons pas faire la distinction entre un touriste et un djihadiste. C'est pas parce que quelqu'un va porter la barbe et le djellaba qu'on doit le suspecter d'être un djihadiste. Nous avons plus de 39 millions de touristes par an qui viennent en Turquie. Donc, s'il y a un échange d'informations efficace avec les pays d'origine, nous pouvons nous féliciter de la coopération que nous avons en l'occurrence avec la France pour pouvoir détecter les djihadistes et de les renvoyer à leur pays d'origine. Je pense que cet échange d'informations est primordial. Et également un contrôle au pays de sortie. Je veux dire, si les pays d'origine n'arrivent pas à contrôler leurs frontières, comment nous pouvons savoir pour faire la distinction d'un touriste et d'un djihadiste. Donc cette coopération dans les deux sens est très importante à mon avis.
Hasdine Ahmed Chaouch, vous venez d'entendre l'ambassadeur de Turquie en France. Alors comment effectivement reconnaître les jeunes Européens français qui traversent la Turquie pour combattre en Syrie ? Dans votre livre « La France du djihad », vous publiez la lettre d'une jeune femme de 22 ans qui est partie en Syrie. Et à la lire, on distingue finalement peu de différence avec les jeunes qui s'engagent par exemple dans des ONG ou qui partent faire le tour du monde.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut bien distinguer les profils avides de guerre et ceux qui rêvent d'un idéal un peu romantique. Mais justement, vous parliez de la, entre guillemets, de la confusion, mais ça fait partie de la stratégie. Il y a un mode d'emploi djihadiste avec l'obligation quasiment, ou en tout cas le conseil de se cacher, de se fondre dans la masse. Donc il y a effectivement des profils un peu, comme vous le disiez, qui se ressemblent. Il y a aussi une volonté, une tactique et une stratégie de se fondre dans la masse, et ce qui est très difficile effectivement pour les autorités turques, qui ressemble à un touriste, qui ressemble à un humanitaire, et là les djihadistes l'ont bien compris.
Est-ce que tous les jeunes Européens qui partent en Syrie y vont pour combattre ou pas ?
Aujourd'hui, oui. Lors de la première vague, il y avait un doute. Certains pouvaient imaginer partir pour faire de l'humanitaire. Mais avec la multiplication des vidéos, avec la propagande très offensive et agressive et très léchée de Daesh notamment, avec la médiatisation, avec la une des journaux et des journaux télévisés, personne ne peut ignorer aujourd'hui ce qu'il se passe là-bas. Lorsqu'on part en Syrie, qu'on est français et qu'on rejoint Al-Nusra ou l'État islamique, on sait qu'on va prendre les armes. On veut prendre la Kalachnikov et on veut combattre. Voilà.
C'est valable aussi pour les femmes ?
Non, les femmes, il y aurait un ou deux profils de femmes françaises qui combattent, mais elles rêvent de se marier avec un moudjahidine, avec un combattant, un mariage parfois qui se fait à distance, via Skype, ou bien un mariage, on rencontre son mari sur place, et on devient l'épouse, l'une des épouses voilà, modèle à la maison, évidemment voilée de la tête aux pieds.
Alors vous parlez des stratèges de Daesh, c'est qui précisément ces stratèges de Daesh ?
Daesh est composé de katibas, plusieurs katibas, souvent des groupes de combats qui sont souvent classés par nationalité. Et pour notre enquête, on s'est intéressé aux Français. Les Français sont les champions, par exemple, de la propagande, avec des images très léchées, avec du matériel, ce qu'on appelle le 5D, qui est un appareil photo très sophistiqué qui permet de faire de belles images. Et ces Français ont compris, en fait, qu'il fallait communiquer avec des codes très occidentaux. Donc une espèce de stratégie un peu concertée de toutes les katibas.
Qui sont ces nouveaux Mohamed Merah auxquels vous consacrez le premier chapitre de votre livre ?
Alors, ceux qu'on appelle les Mohamed Merah, les vétérans, c'est un paradoxe, parfois ils ont 20 ans à peine, ce sont ces combattants partis en Syrie, sur le retour, ou qui ont envie de revenir et qui rêvent d'une chose, c'est de commettre un attentat terroriste en France, avec plusieurs similitudes avec le tueur au scooter de Toulouse. C'est la volonté de tuer seul, en loup solitaire, avec une Kalachnikov. On ne pose plus les bombes, à part quelques exceptions. On a compris qu'il était plus facile, en fait, d'aller tuer un peu à la mass murder à l'américaine dans la foule que de poser une bombe, car fabriquer une bombe, c'est plus difficile. Et ce qui est inquiétant, c'est que pour la première fois, ces futurs terroristes ont appris à tuer, ont déjà tué en ayant fait la guerre en Syrie.
Et c'est par exemple le cas de ce qui s'est passé à Bruxelles.
Tout à fait, Medine Mouche et l'incarnation. Voilà. Et malheureusement, le nouveau Mohamed Merah, il l'a cité souvent en garde à vue, lors de ses correspondances via Internet. Il en a fait une sorte de modèle à suivre, avec toujours cette idée d'un complot contre les musulmans, fomenté soit par l'ennemi sioniste, soit par la France et les militaires.
Hasdine Ahmed Chaouch, nous allons marquer une pause pour écouter les informations de ces dernières heures. On se retrouve dans 3 minutes. A tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour revivre 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Nous sommes en compagnie d'Azdine Ahmed Chaouch, co-auteur du livre « La France du djihad » publié aux éditions du Moment. Une enquête qui nous permet de remonter les filières du djihad de la France, mais aussi de certains pays d'Afrique du Nord vers la Syrie ou l'Irak. Nous irons d'ailleurs en Afrique dans quelques minutes.
RFI.
Mais arrêtons-nous quelques instants en France avec tout d'abord cette libération de celui qui est présenté comme le dernier otage français dans le monde, Serge Lazarevic, que nous avons entendu en début d'émission savourer sa liberté retrouvée. On sait peu de choses sur les conditions de sa libération. Officiellement, la France n'aurait pas versé de rançon et il n'y a pas de polémique politique. Florent Guignard.
La guerre, le terrorisme, ces sujets-là font toujours consensus dans la classe politique française. Pierre Lellouche est député UMP.
Je suis extrêmement en colère contre cette bande de cafards terroristes qui s'en prennent à des civils pour s'arroger le droit de les enterrer vivants quelque part dans le désert pendant 3 ans. C'est insupportable. Les soldats font un boulot formidable. Je suis en soutien complet du gouvernement sur ces affaires.
Un parfum d'unité nationale à l'Assemblée nationale, les conditions de la libération de Serge Lazarevic, l'éventuel versement d'une rançon, tout à sa joie, l'opposant Nicolas Dupont-Aignan ne veut rien en savoir.
La responsabilité d'un gouvernement, c'est de récupérer des Français qui sont pris en otage. C'est le devoir de la France de ne jamais laisser tomber un de ses citoyens de par le monde. Tout le reste appartient... au secret.
Seule réserve exprimée par l'écologiste Noël Mamère, la libération de 2 terroristes comme monnaie d'échange.
Si on échange des prisonniers, ça veut dire qu'on donne une caution à ceux qui ont pris en otage des Français. Ça veut dire qu'on donne une caution à l'islamisme radical et à sa variante terroriste. Je ne sais pas quelle est la meilleure voie.
Pas question de polémiquer quand la vie d'homme est en danger. Et comme toujours, à l'Élysée, on refuse de communiquer au nom de la sécurité des autres otages.
Et accueillant Serge Lazarevic à sa descente d'avion mercredi, le président François Hollande a demandé aux Français d'être très prudents dans le choix de leur destination de voyage.
Je veux lancer un message clair, simple, à tous nos compatriotes qui peuvent se trouver sur des zones que l'on dit à risque. Faites en sorte de ne pas aller là où vous pouvez être enlevé. Nous sommes dans un monde dangereux. Il y a des régions où il ne doit pas être accepté d'aller en voyage. Ce sont des règles. On sait maintenant les risques qui sont encourus. Il y a 3 ans, 4 ans, on pouvait encore se poser des questions. Aujourd'hui, il n'y a plus de questions à se poser.
Le geste de la France en faveur de victimes, notamment américaines, de la Shoah. 70 ans après, la responsabilité de la SNCF, la Société Nationale des Chemins de Fer Français, dans la déportation des Juifs, est affirmée. Un geste tardif et pourtant très attendu par les victimes encore en vie et leurs descendants, comme le rapporte Anne-Marie Capomaccio depuis les États-Unis.
J'étais dans un train de déportés en novembre 1942, train qui allait de la banlieue de Paris, Drancy, vers Auschwitz.
Léo Bretholz est mort à 93 ans en mars dernier. Il ne verra pas l'aboutissement du combat auquel il a consacré sa vie. Léo, survivant de l'Holocauste, fut l'une des voix qui s'est élevée pour demander réparation à la SNCF. L'homme ne pouvait supporter l'idée que Keolis, filiale américaine de l'entreprise de chemin de fer français, remporte un contrat dans son état, le Maryland.
Oui, nous avons fauté, nous avons envoyé des gens à la mort et nous avons été payés pour ça. C'est ce que je veux entendre.
Les associations de survivants demandaient des excuses et une reconnaissance de la culpabilité des chemins de fer français pour son rôle dans la déportation. La compagnie a toujours expliqué que ces trains n'avaient été qu'un instrument. Aujourd'hui, l'État français va donc indemniser les victimes. Les associations de déportés reçoivent la signature de cet accord comme une reconnaissance de responsabilité. Le président de la SNCF parle de conclusion bienvenue. La compagnie va pouvoir postuler aux appels d'offres sur le territoire américain sans risquer d'action en justice.
Jour en France.
La France peut-elle se réformer? C'est le débat politique en cours actuellement en France et c'est le pari du ministre de l'économie Emmanuel Macron qui a présenté cette semaine un projet de loi visant à libéraliser un certain nombre de secteurs industriels, commerciaux et administratifs. Une loi destinée à combattre trois maux essentiels selon le ministre, le corporatisme, la complexité et la défiance. Emmanuel Macron.
Nous devons aller vite. Parce que la situation économique de notre pays le justifie et l'impose. Nous devons être pragmatiques, c'est-à-dire que les débats que nous devons porter, ils doivent permettre d'enrichir ce texte, de le rendre plus efficace, de le compléter. Alors j'entends les critiques. Pour les uns, ce serait un texte qui, en quelque sorte, bousculerait l'économie et la société française. Et pour les autres, c'est un texte qui ne servirait à rien. Et pour tous, c'est un texte fourre-tout, chacun voulant le compléter avec ses propres ajouts. Tous les ajouts qui seront efficaces, qui seront pragmatiques, qui permettront de mettre plus de croissance, plus d'activité, seront les bienvenus. Mais ce texte ne doit se regarder qu'à l'aune d'une chose, le pragmatisme, l'efficacité, le plus d'activité. Parce que c'est ça que les Françaises et les Français attendent. Ils ne veulent pas de débat téléologique. Ils veulent simplement que dans une société où le travail doit redevenir une priorité, où l'activité crée l'activité et notre devoir, parce qu'il y a ce niveau de chômage que rappelait le Premier ministre, parce qu'il y a près d'un quart de nos jeunes qui ne trouvent pas d'emploi ou qui sont condamnés à l'emploi précaire, nous devons rendre notre économie plus forte, plus efficace et en même temps plus juste.
Asdine Ahmed Chaouch, on a entendu le président Hollande espérer qu'aucun Français ne se rende dans une région à risque désormais. Alors visiblement, les jeunes Français candidats au djihad font la sourde oreille. Combien sont-ils actuellement en Syrie ou
Alors, actuellement,
ou en
selon les derniers chiffres, même s'il y a eu très récemment, c'est pas forcément sorti, mais il y a eu beaucoup de pertes françaises ces derniers jours. Il y avait avant ces pertes 378. Alors c'est difficile de donner des chiffres exacts, mais il y avait ces chiffres-là dans les synthèses des services de renseignement. 370-350, il y a actuellement...
Des jeunes qui sont identifiés.
Identifiés actuellement au combat.
À quel endroit ? Syrie ou Irak ou...
En grande majorité en Syrie, mais il y en a quelques-uns quand même qui combattent en Irak. Récemment, on a eu un jeune qui est mort en Irak. Voilà. Et on estime à plus de 1000 Français et Françaises qu'on qualifie d'impliqués, c'est-à-dire qui sont sur place, qui ont combattu, qui sont morts ou qui sont sur le point de partir ou qui ont émis des envies, des velléités de départ. Voilà, un milliers en fait de Français sont concernés par le djihad en Irak et en Syrie.
Alors c'est à la fois beaucoup et aussi peu finalement. Un millier, c'est pas beaucoup de monde, mais en même temps, c'est un apport apparemment important pour les troupes de l'organisation État islamique.
C'est peu lorsque l'on regarde la communauté musulmane en France, quasiment 5 millions de musulmans. Donc disons-le, il n'y a pas un lien direct de corrélation entre musulmans et djihadistes, c'est très important. Et en même temps, la France est aujourd'hui le premier fournisseur en Europe de djihadistes. Les morts permettent, c'est cynique, mais de comptabiliser précisément aussi le nombre de Français, car on appelle la famille... Bonjour madame, votre fils est martyr. Là, on peut compter, on peut malheureusement cocher. Donc c'est voilà, il y a tout un outil comme ça, voilà, qui permet de compter exactement les Français. Et il y a aussi, paradoxalement, la propagande permet aux services de renseignement de retrouver ces Français, de les localiser exactement. C'est un peu un péché de jeunesse de ces mouvements djihadistes. Ils s'affichent trop, ils sont trop fiers d'être sur place, ils se montrent beaucoup trop.
Et ça permet aussi de découvrir des filières, peut-être pour
Bien sûr, ça permet de remonter. Alors les filières, comme j'expliquais, ce sont pas forcément les filières un peu classiques, mais de trouver des complices, certains, un copain, un frère, parfois un imam qui ont pu aider, qui ont pu aider logistiquement ces jeunes au départ. Donc effectivement, Facebook et la propagande restent une mine d'informations très très précieuse pour la France.
Une semaine d'actualité.
Vu du Mali, la libération de Serge Lazarevic ne semble pas aussi belle que vue depuis Paris. En effet, cette libération aurait été obtenue en échange de la libération de plusieurs prisonniers détenus au Mali et liés au groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI. Et cela fait grincer des dents à Bamako. David Baché.
Les associations maliennes des droits de l'homme saluent la fin de la captivité de Serge Lazarevic. Mais elles s'indignent de la libération, selon elles, de 4 prisonniers liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, accusés de violation des droits humains et qui ont servi de monnaie d'échange. Maître Mokhtar Mariko, président de l'Association malienne des droits de l'homme.
Si c'est un succès pour la diplomatie française, pour nous, c'est une grave violation des droits des victimes maliennes. Parce que nous ne comprenons pas, c'est nous qui souffrons ici au Mali. Mais s'il faut échanger un terroriste malien contre un otage français, ça voudrait dire que nous n'avons plus notre raison d'être et que le gouvernement ne défende pas les populations.
En août dernier, les associations de défense des droits de l'homme avaient déjà dénoncé la libération de Ouka Ouka, chef du tribunal islamique de Tombouctou, pendant la période d'occupation du Nord par les groupes djihadistes. Qu'il s'agisse de libérer des otages ou de négocier la paix dans le Nord avec les groupes rebelles, les associations estiment que les autorités maliennes doivent faire de la lutte contre l'impunité leur priorité.
En tout cas pour Louis Caprioli, conseiller du groupe de sécurité privée GEOS, cette libération est une victoire pour les services secrets, notamment maliens.
Les services secrets ont joué un grand rôle, les services secrets français, la DGSE et bien sûr les services surtout du Niger. Les Nigériens ont une filière qui a fait ses preuves dans le passé pour avoir le contact avec les gens d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et c'est à travers cette filière initiée depuis longtemps par l'équipe autour du président que la France a pu négocier la libération de Serge Lazarevic. Si vous voulez, le Niger a joué dans le passé aussi pour la libération d'autres otages un rôle important. Et ce qui est à relever dans cette affaire, l'élément essentiel du dispositif, c'est la filière Touareg, c'est le lien avec ces gens qui sont au nord Mali et qui ont contact avec les gens d'Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Toujours à propos du Mali, cette nouvelle opération militaire française dans le Nord, au cours de laquelle un chef djihadiste, Ahmed Al-Tilemsi, a été tué ainsi que 6 autres combattants. Christine Muratet.
Pour certains, Ahmed Al-Tilemsi était avant tout un djihadiste opportuniste, un narcotrafiquant de la région de Gao qui avait rallié les rangs du Mujaho en 2012 pour combattre le MNLA et son projet séparatiste. Durant l'occupation djihadiste de la ville de Gao, Ahmed Al-Tilemsi était devenu un des patrons de la cité mais aussi un pourvoyeur d'argent pour le mouvement. Pour d'autres, au contraire, Abderrahmane Ouldel Amar, originaire du Tilemsi, est un pur terroriste ayant rejoint la cause du fondamentalisme religieux très tôt. En 2013, au moment de la création du mouvement Al-Mourabitoun, Mokhtar Belmokhtar se rapproche du Mujaho et Al-Tilemsi devient le chef des opérations intérieures au Mali, selon des sources sécuritaires françaises. Son nom est associé à plusieurs prises d'otages, dont celle du français Gilbert Rodriguez Léal, dont la mort a été annoncée par le Mujaho, mais dont le corps n'a jamais été retrouvé. Pour les militaires français, la mort de Tilemsi est un coup dur porté à Belmokhtar. Récemment, les États-Unis ont offert jusqu'à 5 millions de dollars de récompense pour toute information qui conduirait à son arrestation, mais aussi à celle de Hamad Al-Kairou, le fondateur mauritanien du Mujaho. Les deux hommes figurent sur la liste noire américaine des terroristes internationaux.
Hasdine Ahmed Chaouch, que penser des conditions de libération de l'otage français au Mali ?
C'est la coutume française, on négocie, on souhaite coûte que coûte libérer ses otages, donc on paye, on est prêt aussi à échanger ou du moins faire pression sur un autre État pour un échange. Et c'est ce qui peut peut-être entretenir en quelque sorte ces mouvements et inciter à d'autres prises d'otages. À l'inverse, il y a une autre affaire cette semaine, c'est l'assaut des Américains alors que 2 otages étaient kidnappés
en Somalie
exactement. Deux otages sont morts et les Américains ont une autre vision des choses. On ne négocie pas avec les terroristes, ce qui n'est pas le cas des Français. Quelle est la meilleure solution ? C'est difficile à savoir.
Alors parmi les candidats français ou belges au djihad, certains sont-ils tentés pour rejoindre ACMI ?
Aujourd'hui, non, Daesh a tellement pris le pas en communication lorsqu'on est en France et qu'on souhaite ou qu'on a des envies de départ. On regarde ce qui se passe sur Internet et dans les médias français et on choisit Daesh ou Al-Nosra, à une époque qui était une autre branche d'Al-Qaïda. Alors peut-être pas ACMI, mais Al-Nosra en Syrie, en Irak. Donc on est vraiment là sur des départs en Irak et en Syrie et majoritairement pour l'État islamique.
Toujours avec cette idée d'aller rejoindre la création d'un État hypothétique.
Tout à fait. Il y avait dans un premier temps l'idée de combattre le régime de Bachar el-Assad. On sent aujourd'hui que c'est un peu changé. On veut vraiment participer à ce projet qui paraît un peu fou, de la création d'un État islamique avec la charia comme seule règle. Mais c'est ça aujourd'hui qui motive ces Français, clairement.
Alors à l'inverse, les pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie, sont-ils des fournisseurs de jeunes gens pour le djihad en Syrie ?
Oui, avec peut-être une surprise, c'est la Tunisie qui est le premier fournisseur de ces groupes. Les Tunisiens partent très facilement. Déjà géographiquement, ils passent par la Libye, c'est plus facile pour eux. Et donc la Tunisie est aujourd'hui le premier fournisseur. L'Algérie, par exemple, a quelques. Il existe des candidats, enfin des djihadistes algériens, mais les Algériens peut-être refroidis par les années du GIA,
les années 90,
les années noires des années 90. La jeunesse algérienne n'est pas forcément n'entend pas forcément le discours des djihadistes. Ouais.
Jour en Afrique.
Au Sénégal, la ville sainte de Touba a accueilli jeudi la 120e édition du Grand Magal, une cérémonie très importante pour les Mourides, cette confrérie musulmane créée au Sénégal par Amadou Bamba. Le Grand Magal marque le départ pour l'exil de ce dernier en 1895. 2 à 3 millions de disciples mourides ont donc convergé vers le centre du Sénégal cette semaine, une ferveur recueillie par le micro de Karine Franck.
Ce matin, je me suis réveillé très tôt. J'ai été à la mosquée et je me suis recueilli devant le mausolée de Serigne Touba.
Quand je prie, je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait? Comment je vais me corriger?
I'm come from Gambia. I come in Touba. So I like Serigne Bamba.
Je suis de la Côte d'Ivoire. C'est un moment spirituel, un moment de retrouvailles, un moment pour invoquer, sinon implorer la clémence de l'Éternel.
Chaque année je viens et chaque année c'est différent. Je ne sais pas si je suis plus mature qu'avant, mais à l'intérieur je ressens quelque chose de plus en plus fort.
J'ai fait un très bon magal, surtout que j'ai revu des amis que je n'avais pas vus depuis des années. On s'est retrouvés, on a discuté de tout et de tout, on a partagé le repas. Et là, je rentre chez moi, très heureux.
En Tunisie, la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle, qui aura lieu le 21 décembre, s'envenime. Les deux adversaires, le sortant Moncef Marzouki, soutenu par le courant islamiste Ennahda, et Beji Caïd Essebsi, leader de la coalition Nida Tounes, ne cachent pas leur animosité. La violence verbale en agace plus d'un, nous rapporte notre correspondante à Tunis, Jeanne Bergaoui.
Les appels à voter pour l'un ou à contrer l'autre se multiplient sur les réseaux sociaux. Des prises de position personnelles parfois virulentes dénonce Saïda Ounissi, députée du parti islamiste Ennahda.
Je trouve ça décevant que la campagne présidentielle, qui normalement devrait être un moment où on devrait discuter tous ensemble de quel modèle est-ce que nous voulons pour notre pays, se transforme en pugilage, en campagne de petites phrases. Donc j'aimerais véritablement que les deux candidats fassent preuve de sagesse et qu'ils endossent déjà ce rôle auquel ils prétendent, qui est d'être le président de tous les Tunisiens et qui soient véritablement les représentants de l'ensemble des Tunisiens sans exclure aucune catégorie.
Les deux camps ne s'épargnent pas à tel point que l'instance électorale a convoqué les deux candidats, explique Chafik Sarsar, le président de l'ISI.
L'ISI a essayé tout d'abord d'agir au niveau des deux candidats, donc la réunion a été positive. On sait que c'est un défi historique actuellement, on est au finish. L'inquiétant, c'est que l'enjeu est assez grand. Ça doit se faire en respectant les normes et les standards internationaux en la matière.
L'instance électorale appelle les candidats, mais aussi les médias, à respecter les principes de la campagne au vu de l'importance de ce moment historique.
Timbuktu est un film sorti mercredi sur tous les écrans français. RFI lui a consacré une journée spéciale cette semaine. Dans ce film, le cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako filme son pays d'adoption, le Mali, tombé partiellement sous la coupe des djihadistes. Le film raconte d'ailleurs l'occupation du Nord-Mali par les djihadistes en 2012, juste avant l'intervention française et l'opération Serval. Elisabeth Le Quéré.
À l'origine de Timbuktu, il y a une image, celle de ses deux jeunes parents lapidés en juillet 2012 dans la petite ville d'Agueloc, au Nord Mali, au motif qu'ils n'étaient pas mariés. Pour leur rendre justice, pour dénoncer, Abderrahmane Sissako a ressenti le besoin de prendre sa caméra. Plutôt qu'un documentaire, le cinéaste a voulu faire une fiction qui raconterait l'occupation de la ville sainte de Timbuktu par les djihadistes.
Couvre-moi ça. Qu'est-ce que tu fais là?
Rien.
Amenez-la.
Plusieurs personnages se croisent dans son film, des jeunes gens qui veulent continuer à faire de la musique, alors même que celle-ci est interdite, une vendeuse de poissons à qui l'on donne l'ordre de porter gants et chaussettes, une scène extraordinaire résume le film, une bande de gamins contraints de jouer avec un ballon imaginaire puisque le football est proscrit. Sisako ne montre pas la violence, ou très peu, il démonte plutôt l'absurdité des interdits, leur ignorance de l'islam véritable. Son film est fort, digne, intelligent, plastiquement renversant, d'une puissance d'évocation féroce. Il témoigne de ce que le cinéma peut accomplir de plus important.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Et un petit rappel à tous nos auditeurs pour les émissions de fin décembre et début janvier. Dites-nous ce qui vous a le plus marqué en 2014, un événement, une personnalité. Écrivez-nous par courriel ou à la page Facebook d'Une Semaine d'Actualité. Encore merci pour vos propositions. Asdine Ahmed Chaouch, parlons de votre ouvrage « La France du djihad ». Comment le djihad distille sa toile? Qu'est-ce qui fait que la France est finalement un terreau favorable?
Plusieurs facteurs. Le premier, la France a 5 millions de musulmans, donc les recruteurs vont cibler tout simplement les Français, car on estime qu'il y a peut-être plus de candidats présumés au potentiel au djihad. La deuxième chose, c'est les questions liées à l'identité, les rapports de la France avec ce qu'on appelle ses anciennes colonies. C'est un peu le prolongement, par exemple, des manifestations pendant la Coupe du Monde, après la victoire de l'Algérie. On est un peu aussi dans cette problématique de recherche d'identité. Et donc, les recruteurs, les chefs djihadistes sur Internet cherchent un peu à titiller ces instincts-là. Et puis, il y a aussi l'échec de l'islam de France. On a voulu peut-être créer, avec de bonnes intentions, une représentation musulmane, mais un, c'est contre l'essence même de cette religion qui refuse la représentation, et deux, en parallèle, c'est en fait créer, à prospérer un islam des quartiers, un islam qui s'est autoproclamé vrai islam, mais avec un discours plus dur et plus radical, avec en clair, n'écoutez pas ces faux imams politiques et proches du pouvoir, nous sommes le vrai islam, voilà. Donc, les recruteurs vraiment ont bien compris et ils insistent et ils vont chercher ces jeunes Français.
Alors, votre enquête vous a permis également de débusquer un recruteur français, Mourad. C'est apparemment une véritable icône sur les réseaux sociaux.
Mourad Fares, qualifié par les services français comme l'émir, profil très intéressant et atypique. On n'a pas l'ancien braqueur, ancien dealer, non. On a un étudiant assez posé, qui fait pas de faute d'orthographe. On a chatté avec lui sur Facebook et il a un discours très structuré. Et face à certaines âmes perdues, on comprend comment il arrive à trouver les mots, à rassurer et puis à se présenter comme une sorte de gourou qui ne dit pas son nom. Peut-être plus intelligent que certains, lui, il a compris que le vent peut-être commençait à tourner là-bas, parce qu'il était État islamique, après il est parti à Al-Qaïda chez Al-Nusra, et il était pourchassé par l'État islamique, ses anciens compagnons, et donc il s'est rendu cet été au service de renseignement français, il a traversé la frontière, il a fait je me rends.
Alors il est en prison, je crois.
Exactement.
Et il est remplacé déjà par quelqu'un d'autre,
oui,
un Sénégalais.
Un franco-sénégalais, niçois, lui ancien braqueur, Omar Diaby, champion de la propagande sur Internet, et une sorte de réalisateur. Il a fait un film, un blockbuster djihadiste, plus d'une heure, où il présente les musulmans comme les victimes du monde entier. Et c'est ce qui a permis à cet homme de devenir célèbre dans la djihadosphère et de recruter énormément. Et c'est comme ça, en fait, qu'il est devenu incontournable là-bas auprès de l'état-major de l'État islamique. Il a ramené beaucoup, beaucoup de nouveaux candidats. Et il a un profil aussi différent, parce qu'il est assez âgé, il a 38 ans, ce qui est assez rare chez djihadistes. Généralement, les candidats au départ ont une vingtaine d'années en moyenne.
Alors vous posez aussi dans votre livre la question du retour de tous ces jeunes, on en a parlé tout à l'heure, le retour, c'est quelque chose qui est peut-être plus important que d'empêcher le départ?
Oui, pour la France et pour la sécurité intérieure, même si cyniquement on a, je pense, fait une erreur, en laissant partir à l'origine certains jeunes, avec cet adage, les barbus sont plus dangereux là-bas qu'ici. Mais aujourd'hui, on a minimisé cette l'ampleur, donc il y a une masse de candidats au retour, et la France est l'un des pays les moins imaginatifs sur les solutions. On en est pour l'instant sur une réponse quasiment pénale, un triptyque qui est détention provisoire, mise en examen et peine lourde, sans que rien d'autre ne soit proposé. On est dans une réponse uniquement pénale, et on ne sait pas traiter ces candidats, car un jour ils vont sortir de prison. On peut pas mettre quelqu'un 15 ans, 20 ans pour un crime qu'il n'a pas commis, donc on va rester 7 ans au maximum, 10 ans, et ces gens-là, non, on n'a pas préparé leur sortie.
Aucun accompagnement prévu. On a entendu dans cette émission un reportage il y a quelques semaines sur le Danemark, oui, qui justement faisait un accompagnement de tous ces jeunes qui rentraient. Rien n'est prévu comme ça en France.
Non, rien n'est prévu. Il faut, je pense, se mettre en tête que ce problème-là, on n'arrivera pas à le résoudre du jour au lendemain. C'est un problème plus large. Ce n'est pas qu'une question religieuse, une question d'identité. C'est une question sociale, sociétale, économique et urbaine. Il faut vraiment qu'on prenne le problème comme ça, vraiment plus imaginatif, plus large, et être plus ambitieux dans les solutions à proposer.
Merci Hasdin Ahmed Chaouch. Je rappelle que vous êtes journaliste à la rédaction de la télévision française M6 et co-auteur du livre La France du djihad avec votre confrère François Vignol, publié aux éditions du Moment.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovinski. Retrouvez aussi l'émission pour la podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr ou à la page Une semaine d'actualité sur Facebook. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.